Les semaines s'enchaînent après avoir fait un peu de direct avec vous il y a quelques semaines au Salon du Livre Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre. Quel plaisir de vous retrouver en studio.
Et tout à fait, bonjour Philippe Cybercas, bonjour Diego Arabal.
Bonjour Philippe et Philippe, comment allez-vous?
Eh bien très bien, je vois que vous avez la moustache qui frétille aujourd'hui.
Oui, parce que nous allons parler polar.
Je me doutais bien, quelle est la moustache qui frétille? C'est
Quand j'ai vu monter quand j'ai vu monter les marches d'escalier deux par deux, je me suis dit là, aujourd'hui je sais ce que c'est du polar.
C'est du polar.
Voilà.
C'est du polar.
Et il l'a fait deux fois Philippe Cybercas, une fois 3 par 3, une fois 2 par 2. Ça c'est les jours, c'est le protocole.
Ça c'était il y a 10 ans.
C'est le protocole des polars.
Ouais. C'était il y a 10 ans. C'est 2 par 2.
Même 4 par 4, c'était là. C'est un peu alourdi, je trouve.
On prend un peu d'âge.
Un peu d'âge et de volume.
Tout le monde.
Mon cher Diego, que nous avons notre invité en ligne et qui attend.
Et notre invité qui patiente à l'autre bout du fil, c'est Anne Waddington, que je reçois pour Obsession. Bonjour Anne, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Bonjour Anne.
Alors, tout le monde. Voilà, donc nous vous recevons pour un polar qui est sorti cette année, qui s'appelle Obsession, chez Cairn. Voilà, il a failli...
C'est pas grave, ce sont les verres qui se renversent.
Voilà, un verre renversé. Heureusement qu'il n'y avait pas de strychnine dedans. Voilà, donc j'ai lu votre roman et ça m'a inspiré un petit texte. Donc je vais vous le lire et puis vous avez le droit de sortir la Kalachnikov si vous avez envie.
Je sais pas si elle tirera assez loin.
Quoi de plus frustrant qu'une panne d'inspiration pour un écrivain, n'est-il pas, monsieur Noni?
Oh non, c'est du repos, moi, aujourd'hui.
Surtout lorsque, comme Meredith Howard, le nom de plume de Judith, on est une auteure à succès harcelée par son éditeur. Mais la chance lui sourit lorsqu'elle découvre, dans le journal intime d'une vieille femme atteinte d'Alzheimer, cette petite phrase « Qui a tué Anna ?» Meredith Howard se lance alors dans une enquête qui la mènera dans un étourdissant voyage à travers le temps et à travers l'espace. Dans ce thriller foisonnant, Anne Waddington mêle les trajectoires d'êtres cabossés par l'existence, se heurtant à de terrifiants personnages. En fait de chance, le lecteur a plutôt l'impression qu'un destin monstrueux s'évertue à briser les existences, et l'auteur, en Deus ex machina, s'en donne à cœur joie. Petite vieille tuée par un prédateur haïssant la frétissure du temps, notable puissant fuyant les souffrances de son fils atteint d'une maladie incurable, relation d'une sororité discutable, organisation justicière aux méthodes expéditives, rien n'échappe à la noirceur, sauf, peut-être, l'héroïne et son confident professionnel. Quoique. En conclusion, cette obsession est, pour paraphraser Shakespeare, une histoire pleine de bruit et de fureur racontée par un dément. Un livre prenant dont on ne peut se détacher avant d'avoir refermé la dernière page. Obsession, de Anne Waddington aux éditions Cairn, 2023. Voilà Anne, c'était ce que m'avait suggéré la lecture de votre roman. Obsession.
Oui.
Quelle est votre obsession en tant qu'écrivain?
De jamais arrêter d'écrire.
C'est une bonne obsession.
Oui, et puis de lire tout le temps. Les deux côtés.
D'accord. Et est-ce que par hasard, vous n'auriez pas trouvé un journal intime qui vous a donné cette idée?
Non, je n'ai jamais trouvé de journal intime. Ça ne m'est jamais arrivé, ce genre d'histoire. On ne sait jamais, peut-être ça arrivera un jour, mais en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé pour le moment.
D'accord. Mais d'où vous est venue l'idée d'écrire ce roman, d'écrire cette histoire, une histoire vraiment à la fois complexe, parce qu'il y a plein de personnages, il y a plein de lieux, il y a plein d'actions différentes qui concourent à la trame. Et puis il y a quand même des questions assez importantes qui sont traitées dedans. Comment vous est venue l'idée de ce roman?
Alors au départ, moi je recherche toujours un thème. Et j'avais envie, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de traiter le thème du trafic d'œuvres d'art.
Mmh.
Donc en tirant des fils, je suis tombée à la fois sur l'histoire du Saint-Louis, à la fois sur le sac du musée de Bagdad. Et après, je sais pas comment dire, ça se tricote tout seul, hein, parce que en fait, je fais jamais de plan, sauf peut-être pour les dernières heures, parce que quand c'est assez rapproché, les actions, je le fais, mais après, comment c'est arrivé, j'en sais rien. c'est dans ma boîte noire quelque part, il y a des trucs qui se passent. Je peux pas dire exactement. Après, j'avais envie d'avoir, comment dire. Moi, j'aime bien apprendre et découvrir et faire apprendre et découvrir à mes lecteurs. Et puis, j'avais envie d'avoir des personnages bien typés, avec chacun leur faille ou leur capacité particulière. Voilà, et dans cette espèce de melting pot là, tout se tricote finalement. J'aurais envie de dire que c'est quasiment mes personnages qui décident en fait. Hein.
D'accord.
Enfin, ils décident pas de tout, mais
ils décident de ce qu'ils vont faire et ben vous êtes obligé d'écrire et puis voilà. Est-ce que vous pouvez nous, parce que vous avez parlé tout à l'heure du Saint-Louis, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Parce que bon, quand on a lu le roman, on sait, mais pour donner envie au lecteur, ça vaut peut-être le coup d'expliquer ce qu'est cette histoire du Saint-Louis.
Oui, alors le Saint-Louis, c'est un bateau, un paquebot de croisière qui a été affrété par le régime nazi. Et qui est parti le 13 mai 1939 du port de Hambourg, chargé de 937 passagers qui étaient en majorité des Juifs. Donc des Juifs qui fuyaient le régime nazi, c'était donc bien enfin avant que la guerre éclate, hein. Donc ils fuyaient le régime nazi, ils avaient été obligés de prendre un aller-retour et ils avaient tous un visa pour Cuba. C'était une façon de se débarrasser d'eux, on les envoyait sur Cuba. Sauf que, et ça la compagnie le savait, à Cuba on n'en a pas voulu. Donc ils sont restés en rade de Cuba, c'est le moment de le dire, pendant un bon moment. Et donc il y a eu des pourparlers entre les pays. Les USA et le Canada ont refusé d'en prendre. Donc le bateau est revenu en Europe, il est allé accoster à Anvers. Et au bout du compte, au bout d'un moment, ce sont les Belges, le Pays-Bas et l'Angleterre et la France qui se sont partagés ces passagers.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, il y avait Gustav Schröder qui était donc le capitaine, qui était un monsieur qui n'était absolument pas nazi et pas antisémite. Il est mort en 1959 et il a reçu en 1993, à titre posthume, la médaille du juste parmi les nations.
Voilà. D'accord, ok. D'accord, donc ça c'est l'histoire du Saint-Louis qui ouvre votre roman. Hein. Et, et en fait, à partir de là, on se rend compte qu'un certain nombre de ces réfugiés, de ces personnes qui ont quitté leur pays pour fuir la barbarie, on se rend compte qu'un certain nombre, parce qu'ils étaient limités, ils avaient droit à 5 Reichsmark, je crois.
Très peu.
Ils avaient très peu d'argent disponible. Donc certains, pour essayer de s'établir et pouvoir vivre un minimum dans les pays d'accueil, à Cuba, ils avaient emporté des tableaux, etc. Et c'est à cette occasion-là que se produisent en fait des vols à l'intérieur du bateau et donc des pillages.
Voilà. Oui.
Alors,
il y a un vol, en tout cas.
Oui, en tout cas, un vol. Philippe, voulez-vous poser une question?
J'avais alors, c'est une question, c'était plus une remarque qu'une question, Anne. Il y a un livre consacré à cet événement, Diego Arrabal, dont vous parliez à l'instant, sur ce paquebot qui est parti, que nous avions reçu à l'antenne. C'était Bruno Tessarec, pour Les Sentinelles.
Voilà.
Parce qu'il y en a un autre livre que je cite d'ailleurs dans Obsession.
Voilà. Et Bruno Tessarec, alors moi je le connais bien parce que c'était le président du prix Nouveau Talent. qui est le premier prix littéraire que j'avais eu, que j'avais sorti mon premier roman. Et on l'avait reçu justement parce que ce livre raconte toute l'histoire de ce paquebot, qui est une histoire méconnue. Et c'est pour ça que c'est très bien que dans votre roman, vous rappeliez cette histoire, puisque quand on avait fait l'émission, je me rappelle Diawara Abal et même Philippe Subercas, c'était une histoire que vous découvriez, effectivement, tous les deux. Oui. Et on avait reçu Bruno Tesserec. Voilà, c'était juste pour faire cette remarque, pour dire qu'on a vraiment une émission littéraire, vous voyez, extrêmement intéressante et passionnante sur Radio Présence. Enfin, en toute modestie, on dit ça, pour en parler. Voilà. Et je vous le recommande si vous n'avez pas lu Les Sentinelles, parce qu'il raconte cette histoire et il parle effectivement de ce que vous disiez, du fait qu'en 1993, il a reçu effectivement. Il a été reconnu juste parmi les
juste parmi les nations.
Juste parmi les nations.
Et ok. Et puis bon, il y a d'autres personnages. Alors il y a un personnage qui est celui d'une auteure de romans policiers. A-t-elle quelque chose à voir avec vous ?
Bon, je sais pas. Peut-être dans des choses, je suis pas sûre. Je suis pas sûre.
Vous avez droit à deux jokers à Waddington. Vous avez droit à deux jokers.
Joker avec... Non, je pense que ce que je dis ne passe pas par sa bouche à elle. Je pense pas. Passe par une autre bouche. Donc je ne pense pas. En fait, dans ce livre, j'ai voulu m'essayer au jeu. Donc toute la partie qui la concerne où c'est écrit en jeu, et j'ai adoré faire ça, j'ai trouvé que c'était génial. Mais non, c'est pas par sa bouche à elle que je peux cracher mon venin, si je puis dire.
D'accord, ouais, bah pour un auteur de polar, il y a toujours un moment où on crache un peu de venin, sinon ça n'a pas de sens.
Oui,
ouais, ouais.
Voilà.
Et donc il y a plein de personnages, il y a cet auteur qui essaye d'écrire un roman, qui trouve cette phrase et qui va écrire le roman, mais en même temps mener une enquête pour pouvoir écrire son roman, pour essayer de découvrir qui est cette Anna dont parle le...
Oui, la petite Anna.
Le petit, voilà. Et donc elle va s'essayer à ça, mais elle va être à la fois aidée, mais aussi pas mal contrariée par un certain nombre d'activités qui ont lieu parallèlement, notamment ces meurtres de vieilles dames dont on peut se dire qu'ils sont peut-être rattachés, et puis aussi par la personnalité d'un individu que certains des personnages morts dont elle peut penser qu'ils pourraient peut-être correspondre à Anna ont rencontré, et ce personnage est un notable. Donc est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu par rapport à ce notable ?
Bon, alors déjà, il n'existe pas en soi.
Il n'y a pas un vrai personnage qui vous a servi de modèle.
Non, il n'y a pas un vrai.
Il y en a trop.
Non, mais disons que la classe politique ne m'est pas particulièrement sympathique. Donc, ça m'a plu de prendre un député. Donc voilà, quoi qu'en dire, c'est un personnage. Pas très sympathique, effectivement, qui a une vie de couple assez désagréable, en tout cas pour sa femme, et qui est, qui a une espèce d'obsession, là. Lui, c'est l'obsession de la beauté, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui est de travers, comme son fils, par exemple, qui est complètement tordu puisqu'il a la maladie de l'homme de pierre. Il ne veut pas en entendre parler, il en est même dégoûté. Voilà. Donc cette obsession, elle est là et elle passe à travers l'art. Je ne sais pas trop raconter. À travers un tableau, justement, ce tableau qui a été volé sur le Saint-Louis, sur lequel il projette. C'est pas le portrait de Dorian Gray, parce que
c'est le
portrait d'une femme, voilà, dont il tire cette impression de qu'il est pur, qu'il ne peut pas être touché par quoi que ce soit de mauvais. Voilà, donc il est un peu, brinzin quand même, hein, il est un peu particulier.
Oui, il a l'air quand même d'être pas mal touché. Mais il n'est pas le seul à avoir l'air d'être pas mal touché dans votre roman, hein. Parce qu'en fait,
oui.
Le titre du roman, c'est Obsession au singulier, mais,
oui.
mais vous auriez pu le mettre au pluriel.
Oui, oui. C'est un oui interrogatif.
Bah, je veux dire,
il y a
l'obsession du député, il y a l'obsession oui. de l'écrivaine.
L'écrivaine
qui veut savoir qui
oui.
est Anna.
Oui.
Et puis il y a aussi, je dirais, une obsession qui fonctionne un peu en arrière-plan. Qui est celle de chercher à guérir une maladie qui pour l'instant est incurable,
oui.
Etc.
Oui,
donc
oui.
on a bien un effet, peut-être pas de miroir, mais de mise en abîme
de
ces différentes
oui.
obsessions qui, elles, se télescopent. Il y a aussi l'obsession
oui.
de... Alors, je ne me souviens plus du nom du personnage qui se retrouve en possession d'une statuette volé en Irak, au musée archéologique de Bagdad, et dont l'obsession, c'est de pouvoir, non pas s'en débarrasser, mais qu'elle lui serve à survivre, puisqu'il est réfugié,
c'est
etc.,
ça.
etc.
Il est
donc,
réfugié.
Voilà.
Ouais,
donc, on a quand même plusieurs niveaux d'obsession qui se rencontrent. Alors,
oui.
des obsessions qui sont purement intellectuelles, celles du député, etc., puis des obsessions
oui.
très terre-à-terre, c'est-à-dire trouver de l'argent
oui.
pour vivre, quoi. Trouver de l'argent pour survivre, même pas pour vivre, pour survivre.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est pour ça que je pensais à obsession au pluriel.
Oui.
Ce roman, il est sorti depuis maintenant quelques semaines. Vous faites des signatures. Comment il est reçu? Comment
oui.
les gens vous en parlent?
Des retours, j'en ai quelques-uns. La plupart des gens, c'est un peu toujours ce qu'on me dit. C'est-à-dire que une fois que c'est ouvert, on le lâche plus, quoi. Ça coule et tout s'enchaîne. Après aussi la découverte effectivement de toute l'histoire du Saint-Louis, du sac du musée de Bagdad aussi, hein, qui est quand même qui a été un scandale international. Hein.
Qui est plus près de nous et dont on se souvient certainement plus, mais bon, effectivement.
Oui, on n'en a pas trop parlé. Hein, ça date de 2003. Hein,
oui.
Du 12 avril 2003, il y a un musée où il y avait quand même 7000 ans d'histoire, hein, qui a été complètement saccagé sous les yeux indifférents des Américains. Donc après, ça a été un scandale, ils ont essayé de rattraper le coup, mais bon.
Ils ont récupéré pas mal de pièces en rattrapant le coup.
Ouais, ils ont récupéré des pièces, mais bon, c'est un peu compliqué. Bon, en fait, moi, j'ai un blog sur lequel j'explique tout. Voilà, donc si les gens veulent aller voir...
Vous nous donnez son adresse, que nos auditeurs ou auditrices qui seraient intéressés puissent aller voir. Donc,
c'est à anneweddington.com, tout simplement.
D'accord.
Ou on peut passer par ma page Facebook, auteur.
D'accord.
Et là, il y a des raccourcis pour y aller directement, voilà.
Ok, alors je précise que Weddington, c'est W-A-2-D-I-N-G-T-O-N.
Oui.
On pourrait penser qu'il n'y en a qu'un seul, donc il faut quand même... Sinon, après, ça va dire « Non, ça n'existe pas ». Voilà. donc, comme ça, nos auditeurs et nos auditrices pourront aller faire un saut et avoir davantage d'informations
sur ces événements-là.
Voilà, sur ces événements sur ce qui fait, en fait, une partie de la trame de votre roman.
Oui.
Voilà, alors nous arrivons au bout de cette interview. Alors, est-ce que vous avez une actualité de signature ces temps derniers?
Alors, comme ça, j'en ai une dans le Tarn à la Cône. Je suis à Gaillac le 2 décembre, si je ne suis pas. À Gaillac l'après-midi le 2 décembre et à Albi... le matin, toujours le 2 décembre, et après, je suis à Sorèze le 18 novembre, Je suis à Lavaur pour la librairie Attitude le 8, mais là ça va concerner beaucoup plus le dernier qui est sorti là au mois de, qui n'est pas du tout un polar, hein, qui est un roman historique et régional qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et que j'avais moi sorti en édition à compte d'auteur et qui a été réédité par le Cairn. C'est un livre qui avait eu 2 prix. Donc voilà, je suis plus pour celui-là puisque ça concerne quand même pas mal cette région. Mmh. Et après, je suis à Saint-Aurin. Et après, je crois que j'ai un truc à Castelsarrasin, je ne sais plus quand.
D'accord, donc voilà. Une actualité de signature assez chargée, assez riche.
Oui. De toute façon, ça, je le mets toujours sur mon site. Hein.
D'accord. Ben, on incite nos auteurs à venir vous voir.
Voilà. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Je suis à Castelsarrasin le 12 novembre.
Très, très bon jeu de mots, Diego Arabal. C'est sur mon site. J'incite les auteurs à y aller.
Oui, mais ça ne s'écrit pas pareil.
Non, mais voilà, on est d'accord. Mais voilà, mais très, très bien, Diego Arabal.
C'est pas un site, c'est une page. Hein. C'est une page face de book, comme je dis.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, Anne, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Donc, je rappelle que je vous ai reçu pour Obsession. Vous êtes Anne Waddington, c'est paru chez Cairn dans la collection du Noir au Sud.
C'est une très belle collection,
Très
très belle collection, ouais, de polar.
Et qui se passe en très large partie, mais même s'il y a des moments où on part, dans le Tarn. Donc il ne faut pas oublier
absolument,
de le dire.
À
Groyer, pour être plus précis.
À Groyer, plus exactement.
La ville du cuir, à l'origine.
Eh ben, merci beaucoup, Anne, et au plaisir de vous recevoir bientôt.
Merci, Anne, au revoir.
Au revoir.
Ben merci à vous de m'avoir reçu. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Parce que merci, et puis en plus on apprend chaque semaine des choses très intéressantes, même à travers, vous voyez, des polars, des trailers.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle réévoque dans Obsession effectivement ce fait qui est très méconnu, hein, du fait que lorsqu'il y a eu ces 900 ou 1000 juifs qui ont été envoyés effectivement vers Cuba, le régime nazi savait que ces gens ne pourraient pas effectivement descendre à Cuba, puisque ce qui avait été de mémoire donc inventé, c'est qu'il y avait des malades à bord avec une quarantaine donc qui a été déclarée. C'est-à-dire, en fait, on a inventé quelque chose qui n'existait pas pour envoyer le bateau. Et on savait pertinemment après que ces personnes, effectivement, une fois que l'Allemagne allait envahir l'Europe, seraient tuées. Je crois que la plupart, d'ailleurs, quelques-uns, ont été envoyés en camp de concentration et ils sont morts. Voilà. Donc c'est une histoire quand même à rappeler. Et puis à rappeler aussi de cet homme, voilà, qui a été juste parmi les nations. Voilà, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du roman Les Sentinelles de Bruno Tessarec qui en parle, et de mémoire qui est chez Grasset, enfin en tout cas on le trouvera sur internet, hein. Tessarec, c'est T-E-2-S-A-R-E-C-H, voilà, et je recommande vraiment de le lire ce roman, et on l'avait présenté, ça doit faire pas loin d'une dizaine d'années, je pense que c'était en 2013.
Oh, quelle mémoire.
2013 ou 2014.
Quelle mémoire. Merci.
Et
bien voilà, on apprend des choses, c'est ce que je disais, et puis des choses historiques.
Exactement.
Comme cette île, vous vous souvenez, où il y avait un camp de concentration chez les Anglais. Chez les Anglais. C'est là aussi, voilà, on apprend des choses très très intéressantes. Merci à tous les deux toujours, et puis on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir, Philippe.